un expresso s'il vous plaît? C'est ton podcast familial pour t'accompagner à travers le quotidien dans ton rôle parental. Je m'appelle Annie Normandin, je suis intervenante familiale et j'ai une super de belle collaboration avec Cathy Dubé de Cigogne et Baluchon. C'est un moment juste pour toi, relax, prends-toi une tasse puis viens faire le plein. C'est parti! Bonjour, belle communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis présentement avec Marie Allard, une de mes grandes amies qui est maître Allard. Hein?
Rebonjour tout le monde.
Marie travaille au Centre de justice de proximité de la Mauricie et elle est avocate. Donc, on vous en a parlé un petit peu dans le premier épisode là, au niveau de l'aliénation parentale qu'on voulait se rencontrer, elle et moi, pour vous parler justement de l'aliénation parentale, de tout ce qui peut entourer l'aliénation parentale. Donc, maintenant, là, on est rendu à la partie 2 concernant les exemples jurisprudentiels. Je tiens à le mentionner, c'est vraiment difficile à le dire, mais je réussis, je finis par réussir. Hein, Marie, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, puis pour expliquer un peu c'est quoi ça veut dire, exemple jurisprudentiel, en fait, c'est juste un mot à 100$ pour dire des exemples de décisions qui ont déjà été rendues par nos tribunaux québécois, par exemple, en contexte d'aliénation parentale.
Ah, vous les avocats, n'est-ce pas? Bon, alors, on va poursuivre sur l'aliénation parentale. La semaine passée, Marie, on avait parlé des critères qui étaient, dans le fond, qui entouraient l'aliénation parentale. J'aimerais ça qu'on fasse juste un petit résumé pour les auditeurs qui nous écoutent présentement, pour nos familles, pour nommer qu'est-ce que c'est un petit peu l'aliénation parentale pour ceux et celles qui auraient manqué ce bout-là.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, pour être capable de conclure qu'on est en présence du syndrome d'aliénation parentale, il faut rencontrer deux critères. C'est quoi ces critères-là? Le premier, c'est relatif au comportement du parent lui-même. Donc, le parent, sans raison, va utiliser un comportement aliénant dans le but d'écarter, dans le but d'exclure l'autre parent de la vie de l'enfant. Et le deuxième critère qu'on doit voir aussi, c'est un comportement qui se rattache à l'enfant lui-même, c'est-à-dire que le comportement aliénant du parent occasionne effectivement une détérioration de la relation entre l'enfant et son autre parent. Donc, autrement dit, l'aliénation a fonctionné. Donc, pour parler d'aliénation parentale, il faut trouver ces deux critères. Si jamais vous voulez des exemples concrets, des indices, des indicateurs de quand est-ce que je peux être peut-être en présence d'aliénation parentale, n'hésitez pas à aller voir l'épisode numéro 1. On a donné beaucoup d'exemples à ce sujet-là.
Oui, il y a beaucoup de stock. Hein? Puis là, il y a encore beaucoup de stock qu'on va vous donner, mais on voulait vraiment faire le tour parce que c'est un sujet, moi, qui me tient à cœur profondément. Toi aussi, Marie, en étant dans le droit familial, on voit souvent trop d'aliénation parentale ou bien des contextes qui s'apparentent de l'aliénation parentale qui pourraient être en devenir. Puis là, ben, on a décidé que pour la Journée internationale de l'aliénation parentale, ben, il fallait qu'on en parle, hein, nécessairement.
Puis là, pour le deuxième épisode, pourquoi pas commencer avec des cas réels où le tribunal, le juge a eu à statuer est-ce qu'on est en présence d'aliénation parentale? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et là, je me permets une précision. Les exemples, en fait, il va y en avoir 4. Et vous allez remarquer qu'il y a plus de décisions où c'est la mère qui a un comportement aliénant. Je souhaite mentionner que j'ai absolument rien contre les mamans. Hein, Annie, ne me garoche pas de roche. J'ai rien contre les mamans. Mais présentement, c'est une question de fait, c'est une question de statistique. Donc, c'est pour ça que la majorité des exemples que je vous donne, c'est la maman qui a un comportement aliénant. 4 exemples concrets, 4 situations réelles où le tribunal québécois a eu à se pencher là-dessus. J'aurais pu en choisir plus puis les aborder de façon plus sommaire, mais j'ai préféré en choisir 4, mais d'aller plus en profondeur. Je vous le dis tout de suite, il peut y avoir une certaine longueur. J'ai épuré les faits qui n'étaient pas pertinents. Donc, ceux qui sont là, je considère que c'est pertinent, que c'est intéressant. Mais vous allez voir, là, il y a peut-être quelques minutes qu'on va parler d'un cas en particulier avant de passer à l'autre. C'est quoi les 4 exemples qu'on va regarder ensemble? Le premier, il n'y a pas d'aliénation parentale que le juge conclut. Donc, pas de changement de garde. Deuxième cas, on va voir qu'il y a de l'aliénation parentale. Donc là, on va passer d'une garde partagée à une garde exclusive en faveur du parent qui subit le comportement aliénant. Troisième cas de figure, ça va être où il y a de l'aliénation parentale, mais légère à modérée, mais sans changement de garde. Et le quatrième, on va aborder la fameuse question des fausses plaintes, que ce soit en matière criminelle, que ce soit en matière de protection de la jeunesse, on ne peut pas passer à côté.
Oui, ça, Marie, j'ai hâte qu'on aborde le sujet parce que c'est assez immense. Il y a beaucoup de parents qui croient que lorsqu'ils vont faire une plainte au niveau de la DPJ et tout ça, qu'ils vont ravoir la garde de leurs enfants nécessairement, mais ça ne se passe pas comme ça dans la vie en général. Là, il y a un contexte, il y a une enquête.
Mais c'est surtout
aussi.
Que deux côtés à une médaille. C'est-à-dire que si un parent amène que la situation est complètement noire, évidemment qu'on va vouloir aller voir ce que l'autre parent a à dire par rapport à ça. Puis c'est pas parce que nous, on prétend qu'il y a eu une infraction criminelle ou que nous, on prétend que le développement de notre enfant est compromis par l'autre parent que le juge va retenir notre version. L'autre parent a le droit d'être entendu et de faire valoir sa version des faits. Mais malheureusement, comme on va le voir dans la dernière situation, certains parents vont utiliser le système pour gagner du temps, par exemple, ou essayer d'obtenir quelque chose qu'autrement, ils ne seraient pas capables d'obtenir.
Oui, c'est ça. Dans un premier temps, on va regarder des exemples, puis plus tard, on va voir vraiment au niveau de l'intervention, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, qu'est-ce qu'on peut offrir aux parents pour justement là, les aider à traverser tout ça, traverser, excusez-moi, chers parents. Donc, voilà. Alors, vas-y, Marie, avec ton premier exemple.
Donc, le premier cas où il n'y a pas d'aliénation parentale, donc il n'y aura pas de changement. On est dans un cas où la mère demande la garde. Le père, lui, veut une garde partagée parce que selon lui, il y a aliénation parentale de la part de la mère ou à tout le moins un conflit de loyauté. Ce que le père dit, c'est qu'il a été victime, lui, de violences verbales et de dénigrement constant de la part de la mère durant la vie commune. La mère, elle, dit que le père était trop investi dans ses activités bénévoles et qu'il n'agissait pas comme un père impliqué, que ce soit dans la vie des enfants ou par rapport à ses responsabilités quotidiennes à la maison. Le père va venir à faire une demande d'expertise psychosociale. On verra un peu plus loin qu'est-ce que ça mange en hiver. Puis le tribunal l'accorde. Donc, il y a un expert psychologue qui est mandaté par le service d'expertise psychosociale qui va rendre un rapport. Puis 2 mois plus tard, le père va déposer une demande de contre-expertise psychosociale, entre autres parce que, selon lui, les propos tenus par l'expert sont dénués d'impartialité et d'objectivité.
Fait que pour résumer, là, le père n'était pas content de la décision, dans le fond, du rapport psychosocial qui a été fait par des experts. Puis là, ben lui, dans le fond, là, il fait une contre-expertise pour dire ben écoutez, vous ne l'avez pas, puis là, ben faut voir là, autrement. Là.
Donc, autrement dit, le père essaye d'aller chercher une expertise qui va venir dire le contraire. Mais ce qui arrive dans les faits, c'est que les deux experts vont conclure qu'il n'y a aucune preuve d'aliénation parentale de la mère. Le tribunal, après avoir vérifié, avoir analysé les experts, vient rappeler que dans le cas d'une demande de garde partagée, comme le père fait, il faut absolument prendre en considération bon, la stabilité de l'enfant, mais aussi la capacité des parents à communiquer, la proximité des résidences, puis l'absence de conflit aussi. Donc, dans son analyse, ce que le juge va venir dire, il y en a autant à dire sur la mère que sur le père, même si au final, il conclut qu'il n'y a pas d'aliénation parentale, mais il vient dire la mère est anxieuse et surprotectrice. Peut-être que ça va faire écho vous, dans vos oreilles, chers auditeurs. Vous avez peut-être été peut-être un ex-conjoint, conjointe qui est surprotectrice ou anxieuse. La mère questionne les enfants sur leurs activités lorsqu'elle se trouve avec le père. Le tribunal vient dire c'est une attitude qui est inappropriée de la part d'un parent. Les parents n'ont rien de positif à dire l'un sur l'autre. Il est aussi écrit dans l'expertise que le père est plus axé sur sa propre personne plutôt que le meilleur intérêt de l'enfant. Puis comme on l'a vu dans le premier épisode, l'intérêt de l'enfant passe d'abord et avant tout sur tout. Donc, on tasse nos intérêts à nous pour faire place à l'intérêt de l'enfant. Et l'expert rajoute même que le père met davantage l'emphase sur le dénigrement de la mère vis-à-vis lui que de mettre l'emphase sur l'intérêt de son propre enfant. L'expert est venu dire au tribunal qu'il n'y a aucun indice d'aliénation parentale, ni même de conflit de loyauté. Les enfants aiment leur père. Il n'y a aucune réticence de leur part sur le fait de passer du temps avec lui. Ils ont du plaisir avec lui, mais les filles se sentent plus à l'aise et plus confortables avec leur mère. Donc, il y a une relation d'affection et de confiance qui est bien établie, qui a commencé même avant la séparation et qui procure aux filles une certaine forme de stabilité et de sécurité. Que le tribunal vient dire, c'est que même si les parents sont en mesure de répondre aux besoins quotidiens des enfants, il y a de sérieuses préoccupations quant au jugement parental du père et en sa capacité à mettre les intérêts des enfants avant les siens. Il y a eu des cas qui ont été soulevés devant le tribunal dans ce dossier-là. Déménagement du père avec une nouvelle conjointe accusée de voies de fait sur un jeune enfant, donc de blessures sur un autre enfant. Refus total d'effectuer les transports entre les deux résidences. Un refus totalement injustifié du père que les enfants portent les vêtements achetés par la mère. Donc, le tribunal en vient aussi à un moment donné à dire ben, qu'est-ce que les filles ont à dire à ce sujet-là? Parce que ce sont des enfants âgés de 10 et 11 ans. Donc, comme on l'a vu dans le premier épisode, le tribunal doit prendre en considération l'opinion d'un enfant de 8 à 11 ans. Quant à la garde, par exemple, toutes les décisions qui les touchent, autrement dit, sans toutefois que ce soit à lui seul déterminant. Donc, les filles, ce qu'ils viennent dire, c'est qu'ils veulent rester avec leur mère pour des motifs qui sont simples. Puis le tribunal ne peut pas ignorer le lien proche et affectueux entre les filles et leur mère, puis il accorde donc la garde à la mère et des droits d'accès au père. Donc, pourquoi cette décision-là est intéressante? Bien, c'est qu'ici, on est dans un cas où un parent dit qu'il y a de l'aliénation parentale. C'est un beau cas où ce n'est pas parce qu'on allègue qu'il y a de l'aliénation parentale que dans les faits, il y en a. Donc là, il y a une preuve qui a été faite, même deux fois plutôt qu'une. Il n'y en a pas d'aliénation parentale. Le tribunal analyse la situation dans son ensemble. Il va même s'enquérir de l'opinion des jeunes filles parce qu'elles ont 10 et 11 ans. Puis, comme on a vu dans le premier épisode, il y a certains cas où on peut écarter l'opinion d'un enfant, même s'il a plus que 8 ans. Mais dans ce cas-ci, le tribunal en vient à la conclusion qu'il n'y a aucune raison d'écarter l'opinion des enfants, puis que rajouter à l'ensemble de la preuve, ben, il n'y a pas d'aliénation, donc les filles vont aller avec leur mère.
OK. Puis, à partir de ce moment-là, Marie, là, quand on entend toutes ces démarches-là, là, le juge a tranché. C'est à partir de ce moment-là que les parents là, sont dans l'obligation de respecter ce que le juge a ordonné. C'est ce qu'il faut comprendre aussi.
Bien, un jugement, c'est une ordonnance du tribunal. Le fait de ne pas respecter une ordonnance du tribunal, c'est quoi les conséquences qui peuvent en découler? Bien, ça peut être que l'autre parent retourne devant le tribunal pour dire qu'il y a eu non-respect du jugement, en venir à faire une demande de modification pour avoir plus d'accès sur cette base-là, par exemple. Ça peut même aller jusqu'en outrage au tribunal. Un outrage au tribunal, c'est de nature punitive. C'est le tribunal qui vient analyser la situation puis qui vient dire qu'il y avait une ordonnance, elle n'a pas été respectée, il y avait une intention de ne pas la respecter, donc on punit. La règle générale, c'est qu'on respecte les ordonnances rendues devant le tribunal. Effectivement, il y a tout un paquet de nuances à apporter parce que d'un côté, il y a le jugement respecté, mais s'il y a une situation d'urgence qui l'intérêt de l'enfant prime, ça se peut que dans certains contextes, on écarte l'espace d'un instant de jugement. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. La première règle qu'il faut garder en tête, c'est que le tribunal a tranché. On a eu l'occasion de se faire entendre, de présenter notre preuve. Le juge, de façon impartiale, a analysé tout ça, puis il a rendu son jugement.
Puis dis-moi si je me trompe, Marie, là, puis dans mon entourage, puis dans les interventions que je mène auprès des familles, les gens qui sont séparés, souvent, ils ont la facilité de dire d'emblée, ben moi, je vais l'emmener en cours. Mais il y a d'autres options avant d'aller en cours. Il y a plein d'autres options. Fait que, tu sais, tantôt, on va en reparler hein, après les témoignages, parce qu'il y a aussi des témoignages qu'on va discuter après les exemples. Mais c'est pas toujours la première option d'aller en cours. Hein?
Bien, je dirais que si on recule, il y a vraiment plusieurs années, alors qu'il n'était même pas question que la médiation puisse exister en familial ou au civil ou peu importe dans quel domaine, bien, à ce moment-là, si on n'a pas d'autres options, ça se peut qu'on veuille aller devant le tribunal. Mais aujourd'hui, il y a même une obligation, avant d'entamer des procédures judiciaires, d'avoir une réflexion sur est-ce qu'il n'y a pas un autre mode qui serait plus approprié pour régler mon problème, pour régler mon désaccord. Ne serait-ce que pour respecter le principe de proportionnalité. Parce qu'on s'entend, aller à la cour, c'est une option, mais c'est une option qui a un coût sur le temps, un coût au niveau des finances, puis sur le stress aussi. Donc, oui, il y a un pourcentage de cas où le tribunal est effectivement la meilleure décision, mais avant de dire, moi, je vais aller devant le tribunal, à la guerre comme à la guerre, il faut quand même avoir la réflexion. Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Est-ce que je sais ce que le tribunal peut faire? Puis, est-ce que présentement, je ne suis pas en train de mettre mes intérêts avant ceux de mes enfants par hasard? Parce qu'on se rappelle, critère de l'intérêt de l'enfant prime surtout.
Fait que poursuivons avec un autre
exemple. Poursuivons un deuxième cas. Là, on est en présence d'aliénation parentale. Puis, l'impact que ça va avoir, c'est qu'il va y avoir un changement de garde. Au départ, les parents, bon, se rencontrent à quelques reprises. Madame tombe enceinte. Elle demande un test d'ADN. Les résultats démontrent que monsieur est bel et bien le père. Lui sollicite un temps de réflexion. Puis décide finalement d'assumer pleinement son rôle de père. À à un moment donné, la cohabitation entre les deux va prendre fin. Les parents vont décider à l'amiable d'avoir une garde partagée. Ça veut dire que le père va avoir 40 % du temps de garde, la mère va avoir le reste, donc 60 %. Puis, le même mois, donc le même mois où il y a l'entente à l'amiable, monsieur, lui, va faire une demande au tribunal pour faire annuler des arrérages de pension alimentaire. Donc, un montant qu'il devait de pension alimentaire, il fait une demande pour l'annuler, puis il va demander une révision de la pension alimentaire aussi en même temps. Madame, elle, va en profiter pour faire une demande de garde exclusive, donc de changer la garde partagée qui était à l'amiable depuis la séparation en garde exclusive pour elle-même avec des droits d'accès au père. Et là, je me permets peut-être un rapide cours de droit. Garde exclusive, ça ne veut pas dire que la mère a l'enfant 100 % du temps. Garde exclusive, on utilise ces termes-là à partir du moment où un des deux parents a 80 % et plus du temps de garde. Donc, pour votre curiosité. Donc, le père va quand même avoir des droits d'accès, c'est ce que la mère demande. Quelques mois plus tard, monsieur, lui, va en profiter pour modifier sa demande de révision de pension alimentaire pour y inclure une demande d'expertise psychosociale. Et le tribunal va dire, OK, on y va en expertise psychosociale. Puis là, en fait, ce qui arrive, c'est que chacun des parents en vienne qu'à demander la garde exclusive, chacun de leur côté, alors qu'au départ, il y avait une garde partagée. On voit ça souvent. Là, on parle d'un coco qui est âgé de 5 ans dans cette histoire-là. Ça a été quoi l'analyse du juge? Bien, en fait, vous allez voir, là, vous allez peut-être avoir les poils qui vont vous lever sous les bras, mais c'est pas la pire des quatre que je vous amène en plus, là. Dans son analyse, le tribunal retient que l'enfant fait des remarques à son père et à ses grands-parents paternels qui sont plutôt étonnantes pour un enfant de son âge. À plusieurs reprises, il dit à son père « Papa, pas gentil, papa fait bobo à maman ». Donc, quand on parlait dans le premier épisode du podcast, les 8 critères qu'on a regardés ensemble du cadre Richard Garner, quand on disait des mots empruntés, des mots pour dénigrer un parent, ça peut ressembler à ça. L'enfant dessine ses deux parents et fait un X sur le personnage qui représente son père. Quand on lui demande pourquoi il fait un X, l'enfant répond à son père « pas gentil avec maman ». Les quelques fois où les parents sont en présence l'un de l'autre, l'enfant ignore son père. Chaque fois qu'il revoit son fils, ça prend une période d'acclimatation, un peu comme s'il avait besoin de l'apprivoiser à chaque fois. Madame refuse que monsieur assiste au match de baseball auquel participe l'enfant. Madame dit à monsieur regretter de lui avoir dit qu'il était le père de son enfant. Il y a même un cas où le grand-père paternel de l'enfant l'a entendu dire « Papa, pas gentil avec maman ». Puis quand il lui demande pourquoi il dit ça, le petit va répondre qu'il ne sait pas. Mais cette idée-là que le père n'est pas gentil, ça revient souvent. L'enfant rapporte à son grand-père que sa mère lui a dit qu'il n'était pas obligé de lui obéir. Donc, quand on parlait tantôt, dans le premier épisode du podcast, il y avait un des critères que c'était « l'animosité va se répandre à l'entourage du parent victime d'aliénation ». Là, on le voit là, la mère dit que l'enfant n'a pas à obéir au grand-père. Donc, le tribunal vient dire, par des propos comme ceux-là, par des comportements comme la mère a, ça ternit l'image du père dans l'esprit de son fils. En fait, c'est la définition même d'un comportement aliénant. Puis son manque de souplesse mène à la conclusion qu'elle résiste à la création ou au maintien du lien entre le père et son fils, ce qui fait que le juge va confier la garde au père et des droits d'accès à la mère, 2 fins de semaine sur 3, dans le but de rétablir le lien. Cette décision-là est intéressante. Pourquoi? Parce que c'est pas rare de voir que l'enfant aliéné va, en fait, que le tribunal va faire un transfert, autrement dit, c'est-à-dire qu'il va prendre l'enfant dans le milieu aliénant, puis va complètement changer la garde pour rétablir le contact avec le parent aliéné, du moins pour un certain temps, pour justement rétablir les contacts, puis éloigner comportement du parent aliénant.
Ça, Marie, là, c'est que on le voit souvent, hein, puis c'est dommage parce que puis là, j'ai vraiment une idée de client en tête où est-ce que finalement il voulait avoir la garde, finalement il s'est fait enlever la garde complète. Ça cause des dommages aux enfants, tout ça, parce que on vient un peu saccager le milieu, puis même si c'est fait d'une bonne manière, l'enfant de 5 ans n'est pas toujours en mesure de tout comprendre ça. Alors, dans un contexte où est-ce que il y a plein de frustration, qu'il y a de l'aliénation et tout ça, bien, moi, je me pose la question à savoir si les parents sont en mesure de récupérer ça après.
Oui.
ça vient triste, puis ça vient marquant pour un enfant de vivre déjà une séparation à la base, puis là, après ça, de encore revivre un autre remaniement de garde, etc., en plus de passer devant le tribunal parce que l'enfant, il y a eu une expertise psychosociale qui a été faite avec lui. C'est quand même pas rien pour un enfant d'aller rencontrer des intervenants puis d'avoir cette expertise-là. Alors, ça devient quand même assez... c'est une grosse épreuve, là. Une très grosse épreuve qu'on fait vivre à l'enfant, qu'on fait subir un petit peu à l'enfant là, dans un contexte comme ça. Là.
Effectivement. Donc, je reprends ce que tu as dit, Annie. Tu dis, je ne sais pas si c'est des situations où on est capable de rattraper le tort qui a été causé. C'est pour cette raison-là que c'est important d'agir vite dans des contextes d'aliénation parentale. Donc, dès qu'on a un doute véritablement fondé, là, on l'a vu tantôt, c'est pas tout comportement déplacé. C'est pas tout comportement déplacé qui est de l'aliénation parentale. Mais à partir du moment où on a un doute, qu'il y a nos lumières qui s'allument, pourquoi pas porter un œil peut-être plus critique sans nécessairement tomber dans la paranoïa. Hein? On garde en tête qu'il faut quand même favoriser le contact avec nos parents, mais il faut agir rapidement.
Et ça, c'est vraiment difficile de ne pas tomber dans la paranoïa hein? Quand on est dans un contexte de séparation où est-ce qu'on en veut à l'autre parent. Moi, ce que j'ai vraiment là, à apporter, c'est que tantôt, je parlais de besoin. Hein? On prend en considération le besoin de l'enfant. On se centre sur le besoin de l'enfant, pas nos besoins d'adultes. Nos besoins d'adultes, là, on peut régler ça avec un psychologue, avec une expertise, justement, autrement, travailleur social. On va en reparler tantôt de mon métier, de qu'est-ce que moi, je fais au niveau de l'intervention familiale, qu'est-ce que je peux apporter dans un contexte d'aliénation parentale. Mais on se centre et on focus sur le besoin. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez donner à votre enfant, surtout dans un contexte de séparation. Pas juste quand il y a de l'aliénation parentale, mais dans tout contexte de séparation, puis dans le contexte quand on vit des difficultés, des problématiques avec l'enfant ou difficultés conjugales même, parce que ça se peut qu'il y ait des pépins dans la vie ou est-ce que ce soit un petit peu plus difficile à la maison. On essaie de se centrer sur le besoin de l'enfant, puis déjà à la base, ça va être pas mal mieux que si on le considère pas du tout.
Bien, c'est que en agissant comme ça, en mettant les intérêts de l'enfant avant les nôtres, c'est un beau cadeau qu'on s'offre à nous, oui, mais c'est un très beau cadeau qu'on offre à l'enfant, ne serait-ce que l'exemple qu'on est en train de lui donner. Quand lui va être un adulte, il va être porté à reproduire ces comportements-là. Si papa et maman ont été capables d'être matures dans leur gestion d'émotions, ben, ça donne un très bel exemple pour l'adulte en devenir.
Ouais. Mais j'en conviens. C'est pas évident dans un contexte de séparation et je suis totalement empathique face aux parents qui vivent une situation où est-ce que c'est très, très difficile. Alors, Marie, on a un autre exemple?
Oui, troisième exemple, troisième sur quatre. Là, on passe d'une situation où il y avait de l'aliénation parentale, donc on est allé vers un changement drastique de garde, à une situation où il y a de l'aliénation parentale, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, le juge n'est pas intervenu. Il n'y a pas eu de changement de garde, puis on va voir pourquoi. Dans ce dossier-là, les parents ont été ensemble pendant 2 ans. À la séparation, le petit coco avait 9 mois. Le père a quitté la résidence familiale, puis la mère n'a pas pu revoir son enfant. En fait, a pu le revoir, mais seulement 2 mois plus tard, suite à un jugement en urgence ordonnant au père de rétablir les contacts entre la mère et son enfant. Une demande de changement de garde a été déposée par la mère en raison, selon elle, d'aliénation parentale de la part du père sur son fils. Les allégations de la part de la mère d'aliénation parentale sont appuyées par des rapports d'experts. Au début, elle avait la garde du vendredi au dimanche, mais le père a tranquillement fait diminuer ses accès, si bien qu'au moment de la demande, la mère voit son enfant uniquement un samedi sur deux. Le juge va venir conclure que le père refuse inutilement les contacts dans le but de nuire à madame. Il ne tient pas la mère informée des décisions par rapport à l'école et aux activités sportives. Puis, il va ressortir aussi du rapport de l'expert qu'en milieu neutre, l'enfant est capable de tenir 2 discours. Il se permet de reconnaître le plaisir d'être avec sa maman, ce qu'il ne fait pas lorsqu'il est en présence de son père. Le juge explique qu'en présence d'une situation d'aliénation parentale, il existe certains remèdes, comme un changement de garde, comme on l'a vu dans l'exemple juste avant. Il ajoute par contre que ce genre de décision ne doit pas être rendue pour punir le parent aliénant, mais parce que c'est nécessaire pour l'intérêt de l'enfant. Donc, par rapport à la preuve qui lui est soumise dans ce dossier-là, le juge va considérer qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner un changement aussi drastique, malgré la présence d'aliénation parentale, légère à modérée selon les experts. Présentement, là, je vous dirais que le critère qui a été retenu par le tribunal, on parle d'un enfant qui est en bas âge, le critère de la stabilité est super important. Donc, le juge est venu faire une balance entre un changement de garde pour s'éloigner du contexte d'aliénation parentale ou briser la stabilité de l'enfant, puis il a conclu qu'il ne devait pas y avoir de changement de garde. Par contre, le juge vient verbaliser qu'il pense que le procès aura servi à bien faire comprendre au père l'importance des accès de l'enfant avec sa mère et que bien qu'il est d'accord de confier la garde au père, le juge accorde évidemment bon, des droits d'accès à la mère, puis ordonne au père de favoriser les contacts entre l'enfant et sa mère et ordonne, on l'a entendu tantôt, mais là, le juge l'ordonne aussi de ne pas dénigrer l'autre parent devant l'enfant, que ce soit directement ou indirectement. Donc, c'est un beau cas où malgré qu'un parent ait un comportement d'aliénation parentale, quoique légère à modérée, il n'y aura pas d'intervention parce qu'on est venu placer l'intérêt de l'enfant en haut de tout ça. Est-ce que ça veut dire que si ça se dégrade, on ne peut pas rien faire? Non, pas du tout. À chaque fois qu'il y a un changement important, un changement significatif dans la situation des parents ou dans la situation de l'enfant, on peut retourner devant le tribunal. C'est-à-dire que si le père, contrairement à ce que le juge peut croire, n'a pas retenu la leçon, c'est possible pour la mère de retourner devant le tribunal, de dire « la situation a empiré, je demande telle ou telle chose ». Là, le dernier cas, je l'ai gardé pour la fin, c'est pas pour rien. C'est le fameux cas des fausses plaintes.
Ma partie préférée.
Ah oui, hein, dans ton intervention avec tes parents, tu dois déjà avoir entendu quelque chose qui ressemble à ça.
Oui, clairement. Puis je vais faire des petites précisions par rapport à tout ça après.
Okay, super.
Après, par exemple, ouais.
Les juges disent quoi, généralement, par rapport aux fausses plaintes? Bien, les juges viennent dire que fausse plainte n'est pas un critère d'aliénation parentale, mais que c'est un indice de présence d'aliénation parentale. C'est-à-dire que quand on voit ça, ça devrait allumer des lumières sur « on va aller investiguer le reste ». On peut lire dans un jugement de la Cour supérieure en matière familiale que le changement de garde envoie un signal très clair aux parents qui tentent d'utiliser des moyens détournés afin d'obtenir la garde de leur enfant. Le cas dont il est question, je vous dirais que c'est dans les pires cas de comportement aliénant. Un cas comme celui-là, c'est, j'ai envie de dire, plus facile pour le tribunal parce que c'est tellement clair qu'il y a de l'aliénation qu'on n'a pas besoin de chercher midi à 14 ans puis de faire des détours puis de faire des recherches dans sa tête à savoir est-ce que ça en est ou ça n'en est pas. C'est assez clair. Il n'y a pas de zone grise. Donc, le juge, sa conclusion, je vous donne la conclusion au début, ça va vous aider à suivre après ça les faits de l'histoire. Le juge a décidé de confier la garde de l'enfant à son père à la suite de fausses allégations de la mère comme quoi il aurait abusé sexuellement leur fille. Le tribunal a pris cette décision vu la crainte d'aliénation parentale de la mère. Puis le tribunal va même jusqu'à ordonner que les droits d'accès de la mère, qui sont tous les samedis de 10h à 14h, soient supervisés. On ne peut pas laisser cette maman-là avec sa cocotte parce que pour l'instant, ça ne fonctionne pas, est en train de rentrer des idées dans la tête de son enfant, puis ça pourrait effectivement avoir des conséquences à long terme. Concrètement, c'est quoi le contexte? Bien, monsieur, le père va faire une demande de garde avec des droits d'accès supervisés à madame. Madame, elle va faire une demande pour maintenir sa garde exclusive avec des droits d'accès supervisés pour le père. Donc, complètement l'inverse l'un de l'autre. Le père dit que la mère est aliénante, entre autres parce qu'elle refuse de mettre son nom sur l'acte de naissance. Il doit faire des démarches auprès du directeur de l'État civil. Puis même à ça, madame continue de s'opposer parce que son nom apparaît sur les papiers. Dès la naissance de leur fille, monsieur a de la difficulté à l'approcher. Suite à des problèmes avec la jeune fille à l'école, la direction demande la confection d'une grille d'évaluation, ce que madame refuse. On voit souvent ça dans des cas d'aliénation parentale. Le parent aliénant va refuser toute aide d'expert parce qu'il ne veut pas que quelqu'un se penche sur sa situation, mais aussi parce qu'il pense qu'il est lui-même la meilleure personne dans la situation pour décider ce qu'il en est. Madame va déménager et changer sa fille d'école sans aviser le père. Elle va porter plainte contre le père pour kidnapping de sa fille, plainte considérée comme non fondée. Plus tard, madame dépose une nouvelle plainte contre monsieur pour possession de pornographie juvénile. Aucune accusation n'est portée contre monsieur, mais on se rend compte que la plainte est portée un peu avant le procès sur la garde. Quelques mois plus tard, madame porte plainte pour violence conjugale, plainte considérée non fondée. Vous pensez que c'est terminé? Eh bien non. Quelques années plus tard, lors d'un procès, madame souligne à la juge que sa fille demande de se faire photographier nue et se masturbe. Une psychologue rencontre la cocotte à 12 reprises. La conclusion est claire, elle fait que l'enfant ne subit aucun sévice sexuel. Imaginez, là, l'enfant est au cœur de tout ça tout le temps. 2 ans plus tard, Madame dépose une accusation d'abus sexuels et d'abus physiques contre monsieur, peu avant de se présenter en cour, où monsieur demande de reprendre les accès avec sa fille. Vu la plainte, le DPJ s'implique dans le dossier. Surprise, la conclusion est à l'effet qu'il n'y a aucun risque. Encore quelques années plus tard, vous voyez, là, c'est pas une question de semaines. On compte en mois, on compte en années. Pour un enfant en bas âge, là, ça représente quand même une bonne partie de son enfance où il est impliqué dans des procédures comme celle-là. Quelques années plus tard, avant le procès pour la garde, Madame fait une plainte pour agression armée. Monsieur est acquitté. Madame intervient dans les accès de monsieur. En classe, à un moment donné, même la jeune fille va lever sa main puis dire spontanément qu'elle était avec son père en fin de semaine et que c'était de la merde. Elle aurait fait une crise pour demander de ne plus voir son père. Donc, quand on parlait tantôt des 2 critères pour être en présence d'aliénation parentale, on a dit oui, le comportement du parent aliénant, mais il faut que ça fonctionne chez l'enfant. C'est en train de fonctionner, là. On le voit, l'enfant lève sa main en pleine classe pour dire « Allez chez mon père, c'est de la merde ». Le juge va décider d'accorder la demande du père d'élargir ses accès, puis témoigne que madame fait systématiquement tout pour ne pas favoriser ses accès, alors que c'est l'obligation des parents. Le juge retient que madame a résisté à ce que le nom de monsieur soit inscrit sur l'acte de naissance. Le juge vient dire qu'il s'agit d'une attitude inutile. Même après la décision du directeur de l'état civil, puis suite au changement de nom, elle continue à agir comme si le père n'apparaissait pas sur l'acte de naissance. Madame cesse sa thérapie sans raison valable. Elle n'apprécie pas que le psychologue mette en doute ce qu'elle dit. Elle est incapable de discuter avec eux et met en doute tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense. Elle est omnubilée par son désir de tout vouloir contrôler. Il est clair que l'incompréhension et l'intransigeance de la mère nuisent à l'enfant, donc ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de poursuivre ces contacts-là avec la mère. La mère va prendre toutes les décisions. Et là, une parenthèse, prendre toutes les décisions, bien que ce soit contraire à la loi, parce que la loi vient dire que les décisions doivent être prises ensemble, à moins qu'on ait un jugement, ça peut arriver des fois qu'on a un ex ou une ex qui est un peu plus contrôlant puis qui va avoir tendance, qui va prendre le lead, autrement dit, par rapport aux décisions. C'est pas parce qu'on est dans un contexte comme celui-là qu'on est en présence d'aliénation parentale. Là, ce que je vous dis, quand la mère prend toutes les décisions, on est à un autre niveau. Elle n'informe pas non plus le père de tout ce qui se passe au niveau médical et le consulte encore moins pour que la décision soit prise ensemble. Pour elle, le père n'a aucun attribut d'autorité parentale, puis elle va mettre en place une série d'actions, de décisions seulement dans le but de nuire au père puis d'éloigner l'enfant de son parent. Les accès vont finir par être accordés au père par un juge, puis madame défie encore une fois l'ordonnance. Elle confirme que son attitude est aliénante. La juge va confirmer que l'attitude de madame est aliénante. La plainte de kidnapping est dans le haut de la pyramide en termes d'importance de reproches qu'on peut faire dans ce type de dossier. C'est une plainte qui est abusive et sans fondement, encore une fois dans le but de nuire à monsieur. La plainte liée à la pornographie infantile est tout aussi significative. Il est clair que monsieur va en subir des dommages et l'enfant aussi. Madame fait tout pour repousser le plus loin possible le véritable débat sur la garde. Probablement qu'elle le sait, que si le juge se penche sur sa situation, ses chances d'avoir la garde, à tout le moins la garde pleine, sont peut-être plus faibles. Donc, finalement, ce que le juge va conclure après tout ça, c'est qu'on est dans un des pires cas de comportement aliénant et qu'il faut absolument adopter le remède proposé par les tribunaux dans des cas semblables, c'est-à-dire un changement de garde complètement pour venir justement maximiser nos chances de rétablir le contact puis de guérir les torts qui sont causés à l'enfant pendant toutes ces années-là. Quand même, hein, on se trouve à un bout du spectre là, au niveau de l'aliénation parentale, mais je trouvais ça intéressant d'y aller dans un extrême pour vraiment qu'on comprenne jusqu'où ça peut aller. Peut-être que certains d'entre vous seraient surpris puis vous aurez peut-être le réflexe de dire « ben non, ça n'arrive jamais, ça c'est un cas qui doit arriver une fois ou 20 ans ». Non, ça arrive plus souvent qu'on pense. J'ai pas fait de pratique privée longtemps. En fait, j'en ai fait pendant 9 mois avant d'aller au centre de justice de proximité. Puis en 9 mois, j'ai quand même eu connaissance de 3 cas où la mère, dans ce cas-ci, c'était les 3 des mères, ont fait des fausses plaintes d'agression sexuelle du père vis-à-vis les enfants dans le but d'avoir plus de chances d'avoir la garde.
Tu vois, Marie, moi, je suis témoin à quelques reprises au niveau de mes suivis et ça ne fait pas des années que j'ai fait des suivis. Moi aussi, je pourrais dire que je l'ai vu trop souvent Vraiment. Parce qu'après deux puis trois fois, je trouve que c'est trop souvent. Fait que c'est triste que le parent soit autant démuni pour en venir à faire des plaintes de cet ordre-là afin de pouvoir récupérer la garde. Mais en fait, ce que la personne fait, c'est qu'elle brise encore plus la relation puis elle s'éloigne de son objectif plutôt que d'aller chercher les bonnes ressources. Elle ne s'y prend pas vraiment de la bonne façon de ce qu'on peut en conclure, hein, finalement.
Mais c'est qu'on est dans des cas typiques où on a mis nos intérêts en tant qu'adultes devant ceux des enfants. C'est pas de venir dire que c'est pas correct de ressentir ces émotions-là. On n'est pas des robots. Mais comme tu disais tantôt, si on sait qu'on est en train de vivre une situation difficile, notre outil, ça va pas être l'aliénation parentale. Notre outil, ça va être d'aller consulter des professionnels pour s'aider là-dedans, puis de garder en tête que ça a des répercussions, même à très long terme chez l'enfant. Ça devrait aider à essayer de faire preuve d'un peu plus de maturité, même si, comme tu disais tantôt, effectivement, c'est déchirant une séparation, surtout quand il y a des enfants impliqués. Quand tu décides de faire des enfants avec quelqu'un, c'est pas dans un but un jour de te séparer d'eux une semaine sur deux ou même de les avoir juste une fin de semaine sur deux avec deux semaines de vacances l'été. Mais reste que l'intérêt de l'enfant doit d'abord et avant tout. Et une des raisons de ça, c'est que l'enfant est vulnérable. L'enfant n'a pas la maturité, lui, de faire la part des choses et de dire « OK, maman présentement a une dépression ou papa présentement est plus fatigué, plus anxieux, donc c'est pour ça qu'il agit comme ça. » L'enfant, lui, est comme une éponge, il va absorber ce qui lui est dit, n'aura pas une... Il ne fera pas preuve d'un sens critique. Là. Il va l'entendre. Son parent, en qui il a confiance, lui a dit, donc il va faire sien ses propos. Donc, c'est là que c'est dangereux.
Oui, exactement. Puis la confiance envers le parent n'est pas nécessairement adéquate. Hein, on s'entend. Ce n'est pas toujours sur le bon parent que les enfants misent toute leur confiance.
Donc là, on vient de voir ensemble quatre décisions où il y a eu ou pas de l'aliénation parentale. C'est quatre situations parmi tant d'autres. Des fois, ça peut être difficile en tant que parent de se retrouver dans tout ça. Je vous dirais qu'il y a un très bel outil qui a été fait, c'est un arbre de décision. Ça a été fait, encore une fois, là, par la chaire de partenariat en prévention de la maltraitance de l'Université Laval. Puis, grosso modo, là, c'est vraiment un arbre, donc visuellement, c'est vraiment facile à lire. On vient voir, par exemple, bon, est-ce qu'un parent vise clairement à exclure l'autre parent de la vie de l'enfant? Oui. Est-ce qu'il y a des raisons valables? Oui ou non. Puis ensuite de ça, c'est décortiqué étape par étape pour nous aider finalement à savoir est-ce qu'il faut porter une attention particulière? Est-ce qu'on est en présence d'aliénation parentale, par exemple? Puis on le mettra dans les commentaires aussi pour que vous puissiez avoir accès à cet arbre-là. Maintenant, on a regardé des exemples concrets, donc du tribunal, des décisions. Mais qu'est-ce que tu en penses, Annie, si on regarde des témoignages d'enfants qui ont été pris là-dedans?
Ben oui, totalement. En fait, des témoignages d'enfants qui sont devenus des adultes, hein, finalement, un jour, parce qu'on finit par grandir. Ici, on a Cathy qui a maintenant 26 ans, qui dit « J'ai vécu de l'aliénation de la part de ma mère envers mon père. Elle nous incitait, mon frère et moi, à le voler, le calomnier, à l'envoyer chier. Désolée du terme, en frère de toutes les règles, finalement. Elle nous a même incité à déclarer un kidnapping et on s'est rendu aux polices. Elle nous a dit de mentir devant les professionnels, dans le fond, l'expertise psychosociale, et elle nous disait quoi dessiner, comment le dessiner lors de cette expertise-là. C'est quand même assez évident, c'est quand même assez intense comme situation. Il y a Chantal aussi, 44 ans, qui a vécu de l'aliénation. J'ai 44 ans, j'ai vécu de l'aliénation parentale de la part de mes deux parents, mais surtout de la part de mon père envers ma mère. Toute mon enfance, mon père m'a dit et répété que ta mère est folle et plusieurs autres paroles dans le même genre. Tout pour la dénigrer à mes yeux. Le plus triste, c'est qu'il a réussi. Le jour où mes parents se sont séparés, j'avais 16 ans et je ne l'oublierai jamais parce que par la suite, je l'ai revu que 5 ou 6 fois. Jusqu'à son suicide 15 ans plus tard. Ils ne nous ont pas permis de faire la garde partagée pour mon frère et moi. Mon frère est parti vivre avec elle et moi. Je suis restée avec mon père. C'est d'ailleurs ce que je voulais à l'époque, car je croyais dur comme fer que ma mère était folle, mais elle ne l'était pas du tout. Elle a simplement été victime d'un homme narcissique et manipulateur, mais moi, je ne l'ai compris que bien plus tard dans ma vie.
Je trouve que le témoignage de Chantal est parlant sur l'impact à long terme de l'aliénation parentale. Chantal a 44 ans au moment où elle témoigne de sa situation, donc c'est dire qu'elle porte ce bagage-là avec elle.
Effectivement, puis un bagage qui s'est produit au niveau de l'enfance où est-ce qu'on a pris un petit peu connaissance à partir de l'âge de 16 ans dans le contexte où est-ce qu'on est un adolescent en pleine explosion d'émotions. Ça peut être vraiment difficile à gérer là, la séparation des parents, surtout quand il y a une aliénation parentale. Donc, écoute, ça l'a probablement suivi jusqu'à toute sa vie, puis en même temps, bien, elle a probablement, cette femme-là, des choses qui n'ont pas pu se régler justement à cause du suicide de son papa, qui était clairement pas heureux dans cette situation-là. Puis ça m'amène, Marie, à nommer que quand on est deux parents, puis ça, c'est un petit peu mon opinion personnelle teintée de l'intervenante en moi, mais... Quand on fait le choix de faire un enfant avec un conjoint, je comprends qu'il peut se passer plein d'aventures, tu sais, où est-ce qu'on est, c'était pas prévu, là. On s'entend, par exemple, un parent qui tromperait l'autre parent. On est confronté à ces choses-là, mais en même temps, je me dis, la personne avec qui tu as choisi de faire cet enfant-là, elle a du bon en elle, puis c'est avec elle que tu as choisi d'avoir une génétique, hein, finalement, de poursuivre ta génétique. De là à conclure qu'il faut aliéner ce parent-là, moi, ce qui me trouble, c'est ce qui me rend vraiment triste. Je trouve à quelque part que même si on prend des chemins différents, on se doit comme parent de quand même avoir une bonne ligne directrice pour le bien de l'enfant. Sinon, ben, on se retrouve vraiment dans un contexte où est-ce que l'enfant va vivre des grosses difficultés, puis que comme Chantal, Cathy, à 44 ans, 26 ans, ben, ils se retrouvent encore dans un contexte où est-ce qu'ils se sentent pas bien, puis qu'ils ont le besoin d'en parler encore. C'est pas réglé, c'est pas... C'est encore frais là, dans leur tête. Mais
c'est important pour moi de vous dire là, les témoignages que Annie vient de vous lire. Vous pouvez les retrouver sur le site Internet du Carrefour Aliénation Parentale. Puis vous allez pouvoir aussi, sur ce site-là, avoir accès à des témoignages des parents qui ont été pris dans un contexte comme celui-là. Donc, ça peut être intéressant pour vous d'aller jeter un coup d'œil.
Il y a des alternatives à se rendre en cours. Toi, Marie, de ton côté, tu pourrais peut-être nous parler de la médiation familiale qui est offerte, qui est un service qui est gratuit dans le cas d'une séparation au Québec. Il y a 5 séances gratuites offertes aux parents. Lorsqu'il y a une séparation et qu'il y a des enfants qui sont inclus dans la séparation, justement pour s'entendre dans un bon processus puis que ce soit le plus agréable possible dans les difficultés que peuvent vivre les parents. Alors, si tu peux en parler, Marie.
Avec plaisir. Moi, la médiation, j'y crois. C'est pas compliqué. Je pense que même si la médiation ne réussit pas à 100%, juste le fait que les parents aient une commune décision de s'asseoir ensemble pour essayer de régler leurs désaccords, c'est... Oui, ça prend un certain courage parce qu'aller s'asseoir à côté de la personne qu'on aime parfois détester, c'est pas facile. Ça va venir remuer un paquet de choses. Mais il faut garder en tête que la médiation est là pour aider. C'est quoi la médiation? Si je le résume là, en quelques mots, c'est un processus, premièrement, qui est libre et volontaire. Donc, aucune pression, aucun engagement. On peut s'essayer. Si ça donne de quoi, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. En plus, c'est gratuit en matière familiale, donc on n'aura pas perdu d'argent avec ça. C'est un processus aussi où les parties ensemble, mais assistées d'une personne qui est neutre, qui est impartiale, mais qui est formée, qui est un professionnel dans l'art d'essayer de s'entendre, cette personne-là va créer un climat sécuritaire de discussion pour que les parents puissent s'exprimer. Oui, ça se peut que ça crie. Oui, ça se peut que ça pleure. C'est normal, on est des humains. Mais le professionnel est là pour y aller étape par étape, selon les besoins de chacun, puis d'essayer de voir est-ce qu'on est capable de rejoindre les intérêts de chacun, de faire preuve de créativité, parce que c'est ça qui est beau avec la médiation aussi, c'est qu'on n'est pas pris dans un encadrement de règles, de preuves, de procédures, on n'est pas devant un tribunal, donc on peut faire preuve de créativité. C'est un très beau terrain de jeu pour essayer de s'entendre. Maintenant, la question, est-ce que c'est bon dans un contexte d'aliénation parentale? Bien, certains experts vont dire que oui, puis il y en a d'autres qui vont dire que ce n'est pas approprié. Moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est d'évaluer le contexte dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans une situation d'urgence qui nécessite d'intervenir rapidement, peut-être que la médiation ne sera pas appropriée puis que ça va nécessiter une mesure devant le tribunal. Est-ce que les parents sont prêts à faire des compromis? Si la réponse est non, puis que les deux parents sont complètement bornés, ça se peut que la médiation ne serve absolument à rien. Parce que le rôle du médiateur, c'est pas de créer de la magie. Le rôle du médiateur n'est pas là pour forcer quoi que ce soit ou de faire entendre raison à un ou à l'autre. Le rôle du médiateur, c'est d'assister les parents ensemble. Donc, ça prend quand même une certaine volonté de régler, de faire preuve de compromis, sans toutefois couper la poire en deux. Moi, ça me fait rire encore ces années-ci, on entend « Non, je ne veux pas aller en médiation, je ne veux pas couper la poire en deux. » Mais ça ne veut pas dire qu'on va couper la poire en deux. On va regarder toutes les alternatives, on va écouter ce que tout le monde a envie de dire, puis on regardera qu'est-ce qu'on peut faire. Par rapport à ça, si jamais vous n'êtes pas certain que la médiation familiale, c'est bon pour vous, vous avez un doute que ça pourrait causer du tort, par exemple, plutôt que d'avoir des avantages, bien, n'hésitez pas à consulter un avocat sur la question pour savoir c'est quoi vos meilleures options, c'est quoi la meilleure chose à faire. Si vous voulez en savoir plus sur la médiation, comme je le disais dans le live là, pour promouvoir les podcasts, on offre maintenant au Centre de justice de proximité un nouveau service de pré-médiation. On ne fait pas de médiation, donc on n'est pas médiateur, mais on est là en amont pour expliquer aux gens c'est quoi concrètement la médiation, c'est quoi les étapes, à quoi on peut s'attendre, c'est quoi le rôle du médiateur. Est-ce qu'on peut me donner des trucs, des astuces pour maximiser mes chances que l'invitation à mon ex fonctionne pour aller en médiation? Ça, on va regarder ça aussi dans le service qu'on offre. Puis, aussi, vous aider à vous préparer. Si vous avez pris votre décision d'y aller, est-ce qu'il y a certaines réflexions que vous ne pouvez pas amorcer? Bien, on va être là pour débuter ce processus-là avec vous pour ensuite vous aider à trouver votre médiateur. Comment on choisit le médiateur? Mais dans un contexte d'aliénation parentale, je me permets de faire la parenthèse. N'hésitez pas à demander au médiateur que vous allez appeler s'il y a une expertise là-dedans. Ça se demande. C'est un contexte particulier, donc ça nécessite peut-être une médiation particulière. Donc, gênez-vous pas. Puis, comme je le disais un peu plus tôt, gardez en tête, par contre, que le rôle du médiateur, ce n'est pas de créer de la magie. Il ne va pas arriver avec une solution miracle. Donc, si vous êtes réellement dans un contexte d'aliénation parentale et que l'autre parent ne veut absolument rien savoir, qui fait tout pour vous nuire, vous voyez tranquillement que le lien avec votre enfant, ça s'en va vers une rupture et que ça ne fonctionne pas, bien, le médiateur ne sera pas là pour dire à madame ou à monsieur d'arrêter d'avoir ce comportement-là. Donc, si c'est ce que vous cherchez, la médiation n'est pas pour vous, mais il me fera plaisir, avec le service de prémédiation, de regarder avec vous concrètement qu'est-ce que la médiation peut faire pour vous. Je me permets peut-être, là on va sortir de la médiation, parce que oui, la médiation, par contre, garde en tête, c'est une alternative qui est vraiment très intéressante, surtout en matière familiale, hein, parce que des enfants, on va en avoir toute notre vie avec cette personne-là. Donc, si on n'est pas capable de régler le premier désaccord à l'amiable, c'est fort possible que toutes les autres après, on se retrouve devant les tribunaux à chaque fois. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on souhaite? Probablement pas. Donc, dès le départ, puis en fait, il y a même des études qui ont été faites là-dessus. Les parents qui, dès le départ, vont aller devant les tribunaux pour régler leurs désaccords vont avoir tendance à répéter ça plutôt que les parents qui, eux, dès le départ, vont dire « on va s'asseoir, on va essayer de communiquer ». Bien, après ça, les études ont démontré que les parents étaient plus capables de se parler par la suite. Une note pour vous, plutôt pratico-pratique, vous ne trouverez pas ça dans un article de loi ou dans un règlement quelconque, mais je me permets de vous dire, le juge, là, si jamais vous prévoyez aller le voir parce que vous voulez qu'il intervienne dans votre situation, il n'est pas là dans votre vie au quotidien avec vous. Donc, il faut être capable de lui expliquer, il faut être capable de le convaincre qu'un des parents a un comportement aliénant. Donc, il faut être capable de soulever des événements précis. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de vous tenir un espèce de journal de bord dans le but de prendre des notes de façon contemporaine. Donc, plus les faits que vous allez rapporter au tribunal vont être précis, plus ça va être le reflet de la réalité, plus ça va être crédible. On a parlé dans le premier podcast des 8 critères, puis on a parlé aussi d'un inventaire des indicateurs. Ça peut être une façon, ça peut être des outils qu'on garde proche de soi si on est dans une situation comme celle-là. Puis de dire, bon, je suis dans un cas comme celui-là, bien, je vais venir détailler la situation. Par exemple, le parent fait tout pour empêcher les contacts entre l'autre parent et l'enfant. Bien, on pourrait venir écrire dans le journal de bord, le 10 novembre, c'était à mon tour d'avoir les enfants, mais contrairement à ce qui avait été prévu, la mère les a gardés chez elle. La situation s'est reproduite à 5 reprises depuis. Chaque fois que j'essaie d'en parler avec la mère, elle est trop occupée ou argumente en disant que c'est les enfants qui préféraient rester chez elle. Comme ça, on arrive avec des faits, du concret devant le tribunal. Puis le journal de bord permet aussi de se rafraîchir la mémoire avant un témoignage. Donc, ça peut faire toute la différence entre un témoignage crédible versus un témoignage qui est flou, qui est criblé de trous, autrement dit. Puis sachez que si vous avez un journal de bord, je ne sais pas moi, 5 pouces d'épais parce que vous avez beaucoup d'événements, ben, un avocat peut vous aider à cibler ce qui va être pertinent puis c'est quoi la meilleure chose à amener devant les
trous. Puis si je peux apporter un petit point, Marie, là, tu sais, soyez honnête dans vos événements. Parce que j'ai souvent vu de l'amplification pour pouvoir être mieux guidé face en cours et tout ça. Mais si vous n'êtes pas honnête, c'est clair que le juge va le ressentir. Il a vu neiger le juge. Hein? Il en a vu d'autres. En médiation, c'est la même chose. Alors, soyez le plus honnête possible. Je sais que votre plus grand désir, ce serait d'avoir la garde de votre enfant, ce serait de vous sortir de cette situation-là, mais je pense que vous pouvez clairement vous enfoncer si jamais vous nommez pas les vraies situations. Ça ne vous tente pas de vous mettre les pieds dans les plats, en plus de vivre dans un contexte d'aliénation parentale où est-ce que vous avez vécu des événements qui sont assez tirailleux. Et petit conseil!
On peut aussi, avec le journal de bord, aller se chercher d'autres éléments, parce que le journal de bord, en fait, on ne va pas déposer le journal de bord en preuve. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le journal de bord va nous permettre de nous rafraîchir la mémoire pour livrer notre témoignage. Donc, de venir dire ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a eu personnellement connaissance, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour venir maximiser nos chances de convaincre le tribunal, bien, c'est d'appuyer notre témoignage d'autres éléments. Par exemple, des écrits, garder les textos, des courriels, les échanges dans le cahier de communication. Puis c'est possible aussi de se faire des copies de sauvegarde, si jamais c'est nos preuves. Possible de faire corroborer son témoignage par d'autres témoins aussi, exemple l'entourage, les grands-parents, les professeurs. Parce que ce que vous devez garder en tête, c'est que devant un tribunal, c'est une question de preuve. Ce que le juge veut savoir, c'est pas si vous êtes capable de dire qu'il y a de l'aliénation parentale. Tout le monde est capable de dire que son enfant est victime d'aliénation parentale, surtout que le terme est utilisé parfois à tort et à travers. Ce que le juge veut savoir, ce qu'on doit lui démontrer, c'est sur quoi on se base pour dire qu'il y en a, c'est quoi les exemples concrets qu'on a à lui amener.
Une autre alternative, Marie, qui peut être offerte aux parents, c'est une séance d'information sur la coparentalité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver?
C'est une séance d'information de 2h30 qui est donnée normalement dans les locaux du Palais de justice. Là, maintenant, avec le contexte actuel, c'est en ligne. Il est abordé dans cette séance-là les aspects légaux et psychosociaux d'une séparation. C'est obligatoire pour tous les parents qui désirent avoir une date de procès. Donc, qui désirent avoir une date de cours parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre. Pour tous les autres, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut quand même être très pertinent, surtout que c'est gratuit. Pour s'inscrire, on a juste à se rendre sur le site Internet du gouvernement. Donc, ça permet d'avoir des outils supplémentaires.
Puis, par la suite, ben, si on en vient qu'à pas avoir d'autres ressources, bien évidemment, ben, on peut faire une demande au tribunal. C'est reconnu dans un contexte d'aliénation parentale. Il faut agir vite, comme que tu le disais tantôt. Quand on a des doutes ou des signes d'aliénation parentale, il faut vraiment agir rapidement. Alors, quel tribunal, Marie? Où est-ce qu'on se dirige exactement?
Il y a deux possibilités dans des dossiers en familial. Il y a la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, puis il y a la Cour supérieure, Chambre de la famille. C'est quoi la différence entre les deux? Il y a la Chambre de la jeunesse, c'est les cas où le DPJ décide d'intervenir. Donc, autrement dit, les situations où la protection de la jeunesse considère que le développement de l'enfant est compromis. Des cas d'abandon, de négligence, mais ça commence par le dépôt d'une plainte au DPJ. C'est pas nous qui décidons d'aller à la Cour du Québec en Chambre de la jeunesse. Le DPJ va analyser la plainte et va décider, oui ou non, si ça vaut la peine d'aller devant le tribunal. Par exemple, parce que l'enfant serait victime de mauvais traitements psychologiques. Donc, dans la loi sur la protection de la jeunesse, il n'est pas question, encore une fois, d'aliénation parentale, mais le tribunal de la jeunesse a le pouvoir d'intervenir quand il y a des mauvais traitements psychologiques que l'enfant subit. Il faut savoir, je fais une parenthèse parce que ce n'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Le DPJ ne fait pas seulement des demandes pour que les enfants soient placés en famille d'accueil. Le DPJ peut aussi faire des demandes pour qu'un enfant soit confié à un de ses parents et que les contacts avec l'autre parent soient supervisés, par exemple. C'est quoi l'avantage que le DPJ intervienne? Bien, c'est que s'il y a une prise en charge du dossier puis que nous, on a la même position que le DPJ comme quoi qu'il y a un mauvais traitement psychologique qui est fait à l'enfant, bien, on bénéficie du fait que le fardeau de la preuve, donc le fardeau de convaincre le tribunal qu'on est en présence de mauvais traitement psychologique, ça repose sur leurs épaules à eux qui, eux, ont des ressources. Tandis que si nous, on doit faire la demande par nous-mêmes à la Cour supérieure, Chambre de la famille, ça va être à nous de faire la preuve. Le désavantage de faire affaire avec le DPJ, c'est une incertitude quant à la retenue de la plainte. C'est pas parce qu'on fait une plainte que nécessairement ça va être retenu. Un exemple de ça, puis ça je l'entends régulièrement au téléphone, les parents sont déçus, mais cas où l'autre parent est considéré comme suffisamment protégeant à l'égard de l'enfant. Donc, c'est possible que la DPJ, dans ces cas-là, décide de ne pas intervenir, mais recommande plutôt aux parents de faire lui-même sa demande à la Cour supérieure, Chambre de la famille. Il faut savoir que le DPJ, présentement, manque de ressources. Donc, évidemment, ils vont y aller en priorité puis ils vont traiter les cas les plus urgents où l'enfant n'a aucune protection ni du père ni de la mère. au niveau de comment ça se passe sur des PJ au tribunal de la jeunesse, on pourrait faire un podcast juste là-dessus. Donc, je vous invite à contacter votre centre de justice de proximité pour plus d'informations. Sinon, il y a la Cour supérieure, Chambre de la famille, ça, c'est tous les autres cas où il est question de garde, par exemple, et que le DPJ n'intervient pas. En fait, ça va être, par exemple, le parent qui va décider d'aller ouvrir un dossier à la Cour pour faire une demande de garde exclusive, par exemple. Quel genre de délai on peut s'attendre? Dépendamment s'il y a une urgence ou non, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, voire même dépasser une année dans certains cas. Quelle est l'alternative? Bien, si on est en présence d'une urgence, donc une urgence avec un grand U, on peut faire une demande au tribunal en attendant d'avoir le procès final. Donc, c'est un petit procès à l'intérieur du gros procès, si je peux dire ça comme ça. Ça s'appelle une ordonnance de sauvegarde. Donc, peut-être que certains d'entre vous avaient déjà entendu parler de ça. On parle de tribunal rapidement parce qu'on l'a déjà vu là, dans le premier épisode, mais quel genre de demande on peut faire au tribunal si on pense être dans un contexte d'aliénation parentale? Bien, on peut y aller avec une garde partagée si l'enfant, si c'est dans son intérêt de continuer à avoir des contacts ou si prolonger avec l'autre parent. Ça peut être une garde exclusive, ça peut être dans certains cas plus graves, une suspension des contacts, que les contacts soient supervisés, ordonnance de ne pas dénigrer, ordonnance d'encourager les contacts, une ordonnance pour que l'enfant bénéficie, par exemple, d'un suivi psychologique. Je vous entends me demander c'est quoi la meilleure option. Je ne peux pas répondre à cette question-là et c'est surtout que les experts ne semblent pas s'entendre sur quelle est la meilleure solution à retenir en contexte d'aliénation parentale. Il y en a qui vont dire que maintenir l'enfant avec le parent cause plus de dommages, puis il y en a d'autres qui vont dire que c'est plus dommageable de changer l'enfant de milieu. Donc, on doit garder en tête, là, imaginez le juge, comment il y a un travail excessivement difficile à faire si les experts ne s'entendent pas sur la question. Bien, en fait, le juge qui va faire, c'est qu'il va s'allier d'experts. Il va regarder l'ensemble de la situation, puis il va se poser la question, est-ce que la décision que je m'apprête à rendre respecte l'intérêt de l'enfant? Le juge n'a pas une solution unique qu'il peut rendre, il peut y avoir plusieurs ordonnances, là, il doit jongler avec cette situation-là, parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est rarement tout noir ou tout blanc. Une autre des demandes qu'on peut faire au tribunal, c'est de nommer un procureur à l'enfant. Un procureur à l'enfant, c'est quoi? Bien, c'est un avocat à un enfant. Donc, l'avocat va représenter les intérêts de cet enfant-là, il va dresser un rapport qui peut être déposé au tribunal. Dans quel contexte on peut voir un rapport de procureur à l'enfant? Mais ça va être dans le cas où l'opinion de l'enfant peut être considérée. Donc, de 8 à 11 ans et 12 ans, bon, c'est largement déterminant, l'opinion de l'enfant. Donc, à partir de 8 ans, il peut y avoir des demandes qui sont faites pour le procureur à l'enfant. Ça va arriver dans certains cas que l'enfant va venir témoigner directement à la cour. Si c'est le cas, par contre, il va y avoir des mesures qui devront être prises pour limiter son stress. La loi en prévoit certaines. Par exemple, en excluant les gens de la salle. Ça, c'est dans des cas où on va considérer que c'est nécessaire parce que ça va arriver bien des cas où le rapport du procureur à l'enfant va être suffisant. Puis à ce moment-là, si ce n'est pas nécessaire, on n'imposera pas ça aux enfants. Une autre demande qu'on peut faire au tribunal, la demande d'expertise psychosociale. Vous vous souvenez tantôt quand on regardait les quatre exemples concrets, c'est revenu souvent ces termes-là, expertise psychosociale. Avant d'aller plus loin, je vais me permettre de mentionner que bien que le juge n'est généralement pas obligé de suivre les recommandations d'un expert dans tous les domaines de droit confondus, en contexte d'aliénation parentale, l'expertise va généralement être déterminante. L'aliénation parentale, c'est complexe, c'est subtil, c'est sournois, donc les juges ont besoin d'un regard d'un expert sur la question. Le règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale prévoit que dans tous les dossiers en matière familiale qui met en jeu l'intérêt de l'enfant mineur, bien, c'est possible soit que le tribunal fasse la demande lui-même ou que les parents fassent la demande, d'ordonner que le service d'expertise psychosociale désigne un expert, par exemple, s'il y a un doute quant à la présence d'aliénation parentale ou encore si l'enfant, sans raison valable, refuse d'aller rendre visite à son autre parent. Qui fait l'expertise psychosociale? Généralement, un psychologue ou un travailleur social, dans le but d'éclairer le tribunal sur toutes les questions liées à la garde de l'enfant ou tout autre aspect qui peut le concerner. Concrètement, l'expert va rencontrer les parents, va rencontrer l'enfant, il peut même rencontrer, dans certains cas, l'entourage de l'enfant. Ça permet d'évaluer les capacités parentales puis d'analyser la dynamique familiale aussi pour éventuellement mettre des recommandations. Précision, super important, si on veut avoir une expertise psychosociale sur l'aliénation parentale, il faut absolument faire cette demande-là dans les conclusions. Donc, il faut que l'expertise, l'expert se positionne sur l'aliénation parentale. S'il ne le fait pas, on peut passer à côté de ce qu'on cherche. Comment on peut faire cette demande-là d'expertise psychosociale? Bien, c'est super important de savoir que ça prend un début de preuve. Le parent qui veut faire cette demande-là, soit par lui-même ou par l'entremise d'un avocat, s'il est représenté par avocat, doit convaincre le tribunal qu'il existe un commencement de preuve que les parents et leurs enfants sont confrontés à de l'aliénation parentale ou encore qu'un refus injustifié de l'enfant d'aller voir son autre parent. me permets de vous mentionner ici en Mauricie, quand un juge ordonne une expertise psychosociale, il va rester en charge du dossier du début à la fin, sauf exception. Ça se fait aussi dans d'autres régions. Le but, donc la logique en arrière de ça, c'est qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible, étant donné la vigilance qu'imposent les dynamiques particulières d'aliénation parentale. Prévoyez un délai de 3 mois habituellement pour l'expertise, quoi qu'en pratique, ça peut arriver que ce délai-là soit dépassé, étant donné l'engorgement des tribunaux. La loi prévoit d'ailleurs que l'expert peut faire une demande pour prolonger son délai s'il sait qu'il ne sera pas capable de déposer le rapport à temps. L'avantage de l'expertise psychosociale, du service d'expertise psychosociale de la Cour supérieure, c'est que c'est gratuit. Le désavantage, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur le choix de l'expert. Qu'est-ce qu'on fait maintenant si notre demande est rejetée? Que le tribunal conclut qu'il n'y a pas de début de preuve, donc il ne peut pas imposer une expertise psychosociale. Bien, à ce moment-là, il y a 2 autres options. La personne qui désigne une expertise peut demander un expert de son choix. À ce moment-là, bon, le désavantage, c'est quoi? Évidemment, les frais sont élevés. Puis, ça peut être difficile d'obtenir le consentement de l'autre parent de se soumettre à une expertise comme celle-là. Et la deuxième option, c'est un expert choisi par les deux parents. Mais je vous dirais, dans des contextes d'aliénation parentale, généralement, le parent aliénant ne voudra pas qu'un expert se penche sur la question. Donc, on met nos efforts sur la demande d'expertise psychosociale. Avant de mettre nos énergies là-dedans, ça peut être intéressant dans certaines circonstances de justement consulter un avocat, d'être représenté par avocat, parce que c'est des dossiers quand même au niveau du droit. Il faut être habile à naviguer là-dedans. Donc, le fait de faire affaire avec un expert, ça peut aider à tout le moins d'être sûr que ce qu'on s'apprête à faire, c'est la bonne chose et qu'on a des chances de réussir.
Mais pour terminer, Marie, parce qu'on va se laisser.
Oui. Hein, c'est du stock, c'est du lourd, l'aliénation parentale, hein?
Oui, puis sais-tu, le pire, c'est qu'on aurait pu en parler encore plus longtemps. Quand on a travaillé, Marie et moi, on avait des documents là, immenses. Marie m'arrivait avec beaucoup, beaucoup d'informations. Puis le pire, c'est que tu as bien résumé, hein, parce qu'on a fait un en bref quasiment. Fait que c'est vraiment complexe, l'aliénation parentale. Puis je sais que ce podcast-là est vraiment comme très, 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 très informatif, mais je pense que c'était vraiment nécessaire de mettre les points sur les i, les barres sur les t, justement dans des contextes d'aliénation parentale. Et puis là, ben, comment aller chercher de l'aide pour soi-même hein, quand on est victime d'un parent qui fait l'aliénation parentale envers nous ou quand l'enfant subit de l'aliénation parentale de son parent? Ben, sachez qu'il y a des intervenants au privé dans le système public qui est franchement débordé de ce temps-là avec la pandémie, mais il y a des travailleurs sociaux, il y a des psychologues qui peuvent vous aider, il y a des intervenants familiales comme moi qui peuvent vous aider à vous outiller, vous, à comment passer au travers ça, hein? Comment mettre en place des interventions avec votre enfant afin que ça se passe mieux puis que l'enfant soit en mesure de bien comprendre vos interventions, vos besoins de... Puis là, c'est pas une campagne de salissage, là, on s'entend, là, moi, je ne m'allie pas avec le parent pour détruire l'autre parent, on s'entend, ce n'est pas comme ça. Moi, ce que je veux, c'est protéger l'intégrité de l'enfant, de la personne qui est aliénée. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place. On pourra faire un autre podcast, Marie, par rapport à ça.
Je m'en allais dire, si je peux me permettre aussi, c'est du lourd, hein, ce qu'on a abordé dans le podcast. Le deuxième épisode est plus imposant que le premier parce qu'on aborde les exemples, on aborde qu'est-ce qu'on peut faire. Sachez qu'il n'y a absolument rien de ce qui a été discuté aujourd'hui qui ne peut pas être pris en rencontre individuelle via nos services d'information juridique ou en prémédiation. C'est-à-dire que stressez-vous pas à retenir tout ça. Stressez-vous pas à faire un verbatim de ce qui a été dit pendant le podcast. Lâchez-nous un coup de fil, puis ça va nous faire plaisir de vous aider avec ça. Sachez aussi qu'il y a le Carrefour, l'organisme Carrefour Aliénation Parentale qui peut vous donner un coup de main si vous êtes dans une situation comme celle-là. Ils ont, entre autres, une trousse juridique qui peut être intéressante si vous savez que vous vous en allez vers les tribunaux avec ça. Pour ce qui est des outils aussi dont il a été question pendant le podcast, un rappel, là, je vais vous mettre en commentaire.
Alors, au niveau de l'aliénation parentale, il y a des ressources pour vous aider. Il y a les centres de justice de proximité. Il y a des intervenants familiaux qui peuvent vous aider. Il y a des coachs familiales aussi qui peuvent vous aider. Comment traverser le quotidien dans ces périodes difficiles-là à reprendre de l'estime de vous-même aussi, parce que ça peut être assez dégradant et dénigrant pour un parent qui le subit. Pour ma part, j'ai des formations sur le burn-out parental aussi, parce que ça peut en venir jusque-là au niveau de la dépression et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? ben, on se dirige vers les ressources nécessaires pour pouvoir s'aider, surtout pour les enfants, les cocos. N'hésitez pas à en parler au personnel de l'école. Hein? Il y a des intervenants dans les écoles, il y a des psychoéducateurs, il y a des psychologues, il y a des éducateurs spécialisés qui sont là. Si votre enfant a un très bon lien avec son enseignant, peut-être que de juste verbaliser, de juste, d'apprendre à gérer les émotions aussi au niveau de l'anxiété que cet enfant-là vit au quotidien par rapport à la situation, peut-être que ça peut lui faire grandement du bien. Alors, choisissez une personne neutre pour vous aider parce que quand on est dans l'émotion, il n'y a rien de pire que d'intervenir sous le coup de l'émotion. Et puis, pour finir sur une note positive, bien, sachez que quand on est témoin d'un début d'aliénation parentale, bien, si vous prenez à cœur les besoins de votre enfant, plutôt que de vos besoins, de vos intérêts en premier, bien, il y aura nécessairement un bon travail déjà de fait pour aider votre enfant puis pour aider votre famille. Puis je sais que c'est pas évident de s'entendre quand on est dans un contexte de séparation. Moi-même, comme enfant, je l'ai vécu avec ma famille. C'est pas évident. Comme enfant, je me suis sentie souvent tiraillée entre papa et maman. Papa qui avait des commentaires un petit peu désobligeants. Maman qui savait vraiment pas trop où se placer, que je voyais son estime qui était vraiment diminuée. Je sais que c'est pas facile, mais pour le besoin de l'enfant, ben sachez qu'il y a d'autres options, il y a d'autres solutions. La médiation, on en a parlé tantôt, les expertises d'autres professionnels. Alors, voilà. Merci. Maître Marie Allard, d'être venue.
Merci pour l'invitation, Madame Normandin. Ce fut un plaisir.
Sérieusement, je suis vraiment choyée par la vie d'avoir des amis, premièrement, qui ont des métiers qui peuvent fitter avec le mien et qu'on peut travailler ensemble sur plein de projets. Puis vraiment heureuse que ta patronne ait accepté de te prêter à mon podcast au niveau du Centre de justice de proximité. Oui. Ce fut un énorme plaisir de travailler avec toi. J'ai adoré parler d'aliénation parentale. Puis certainement qu'on pourra faire un autre podcast. Dites-moi, là, les gens qui nous écoutent, si ça vous tente de revoir Marie sur des sujets au niveau de la loi qui vous intéressent, qui concernent la famille. Je pense que ça pourrait donner nous des idées. Alors, voilà, si vous avez envie de rejoindre le Centre de justice de proximité de la Mauricie, vous avez une page Facebook, hein, Marie, de disponible.
Centre de justice de proximité de la Mauricie, on a un site Internet aussi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous jaser.
Et puis, si jamais vous avez envie de vous joindre à moi et Cathy Dubé de Cigogne-et-Bachan, qui est une de mes grandes collaboratrices, ben venez nous rejoindre sur le groupe Facebook Podcast Un Expresso, s'il vous plaît, où est-ce qu'on discute justement, où on échange sur les podcasts qui ont été enregistrés, où est-ce qu'on parle de situations familiales et où est-ce qu'on vous donne beaucoup, beaucoup de contenu. Il y a des lives qu'on va faire éventuellement et il y a aussi des extraits vidéo de nos podcasts qu'on tourne dans les prochaines semaines, puis qui ont déjà été tournés. Alors, c'est super le fun, puis on veut vraiment là, avoir votre avis sur les podcasts. C'est vraiment un monde merveilleux que j'adore. Sérieusement, je pense que ça c'est en train de devenir mon dada, mon vrai dada. Alors, je vous remercie. Rejoignez-moi, Annie Normandin, intervenante familiale, puis les podcasts sont disponibles au www.interventionfamille.com dans la section médias, section podcast. Merci beaucoup, Marie, encore une fois. Je t'aime, mon amie. T'es vraiment extraordinaire, merveilleuse.
Je t'aime aussi. Ça fait un plaisir de passer l'après-midi avec toi à tourner ces podcasts-là.
Merci. Bonne journée.
Bye-bye.
Un gros merci d'avoir été avec nous. Si t'en as l'envie, rejoins notre belle communauté Facebook avec le groupe Podcast Un Expresso, s'il vous plaît. Je remercie également C'est Exact, qui est fièrement commanditaire de votre podcast familial. Avec C'est Exact, réalisez tous vos projets web, sites, référencements, boutiques en ligne et plus encore. Pour plus d'informations, visitez citexact.ca.